Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
Salut, salut, bienvenue à Sur la ligne, le radio podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale. Mine de rien, c'est une saison de tennis qui commence à avancer. Presque plus de neige ici en ville. Alors, les terrains de tennis commencent à... Ben, en fait, je sais que dans mon coin, il y a déjà du monde qui joue au tennis puis au pickleball, et c'est sûrement le cas aussi du côté de Tennis Montréal. Et justement, je vais rejoindre mon collègue Hugues Léger. Hugues, comment vas-tu? Comment te portes-tu en direct de tes bureaux du Parc Jarry?
Salut Alex, ça va très bien. Temps froid encore aujourd'hui, mais oui, les terrains extérieurs sont ouverts pas mal partout. C'est vraiment parti pour cette saison. Mais je rêve un peu d'être aussi sur la Côte d'Azur en ce moment, sur la terre battue rouge. Là, ça serait quand même un autre panorama. Il se passe des belles choses de ce côté-là, mais tout va bien. Là, c'est un bon début de saison. Puis on voit un vrai engouement pour le tennis en ce moment. Nos niveaux d'inscription pour le mois d'avril en cours, hein, on est seulement quoi, le 22 avril aujourd'hui. On est à 25% de plus d'inscriptions qu'à la pareille date en 2023. Donc, l'intérêt pour le tennis à Montréal ne se dément pas en ce moment.
C'est peut-être une question un peu de gars qui ne louent pas beaucoup de terrain. Avez-vous des terrains en terre battue à Tennis Montréal?
Ben, c'est ceux de l'arrondissement d'Outremont essentiellement. Donc, Parc Saint-Viateur, Parc FX Garneau, qui sont nos repères de terrain terre battue. C'est du R-True, évidemment. C'est de la petite roche nord-américaine, de la pierre concassée. Mm. Pas de terre battue rouge là, pour Tennis Montréal, mais on a effectivement quelques accès à des terres battues, mais généralement, ça va être du terrain dur là, en acrylique, comme au US Open ou à l'Omnium Banque Nationale.
Tu sais qu'à mon chalet, et je l'appelle le chalet, mais la vérité, c'est que c'est la maison de ma mère, mais c'est à Saint-Sauveur, et en arrière, sur le bord de la plage, j'ai des terrains en terre battue rouge. Je voudrais vous inviter un soir. Ouais, ils sont vraiment beaux, là, puis ils sont bien entretenus aussi. Charlotte, étais-tu une fan de terre battue? C'était-tu ta surface préférée?
Oui, surprenamment, j'aimais beaucoup la terre battue. J'ai plus un style de joueuse qui aime jouer sur des surfaces comme la surface dure, parce que je suis puissante, puis j'aime ça terminer les points rapidement. Mais je me suis quand même trouvée à avoir beaucoup de succès sur terre battue, puis j'avais joué Badoza à Roland-Garros une année, puis ça avait été un très bon match. Fait que j'en garde des bons souvenirs quand même de mes matchs sur terre battue. Malgré tout, j'ai eu des bons résultats.
Et c'est ça l'avantage, c'est que Charlotte peut dire « j'ai joué Badoza, j'ai joué ces joueurs-là ou ces joueuses-là », alors que nous, ben Hugues, on ne peut pas se vanter de ça. Et je vous rappelle que ben Charlotte a déjà été une des meilleures joueuses juniors au monde, et elle a réussi beaucoup plus que la plupart des athlètes. Tu peux être très fier de ta carrière, je te le dis assez régulièrement. Et c'était, honnêtement, puis je te l'ai déjà dit, c'était vraiment une de mes joueuse préférée. Elle regarde des jeux quand elle était plus jeune. Elle avait un méchant caractère sur le terrain et c'était toujours divertissant. Puis elle était belle fun à voir. Honnêtement, j'aimais ça. C'était pas lourd pour moi de me déplacer. Aller te voir jouer à ton époque chez les juniors, et même quand tu as joué chez les pros, je me souviens de t'avoir regardé jouer des matchs de qualification à l'Omnium Banque Nationale. Et ça, ben moi et Hugues, on ne pourra jamais se vanter de ça. Quoi qu'on a joué sur le central, quand même. C'est la seule chose qu'on peut se vanter. Ben voilà. On a un gros programme aujourd'hui. Il y avait quelques tournois qui se sont joués. On va en parler, on va revenir sur ce qui s'est passé du côté des Canadiens, Félix. On va aller voir ce qui s'est passé du côté de Munich, de Barcelone, etc. et Stuttgart notamment. Une grosse retraite et peut-être une annonce de la retraite qui s'en vient également pour des joueurs bien connus. Mais avant ça, mon cher Hugues, on va continuer de célébrer cette victoire de la Coupe du monde de tennis du côté féminin. Il y aura cette tournée là, qui a été annoncée pour les Canadiennes championnes du monde à la Billie Jean King Cup.
Ouais, vendredi dernier, conférence de presse, présentation dans la toute nouvelle mezzanine du Stade IGA que vous aurez l'occasion de voir là, pour ceux qui pratiquent le tennis ici. C'est un nouvel espace qui a été développé en fait pour les circuits ATP WTA pour que les joueurs et joueuses aient plus d'espace là, durant la période du tournoi au niveau soins médicaux, notamment kiné, physio, contrôle antidopage, tout ça, ça va se passer là. Donc, on a créé de l'espace au Stade IGA. Et Tennis Canada recevait les médias vendredi pour présenter le début de cette tournée des championnes de la Billie Jean King Cup. Très belle présentation au Stade IGA avec des anciennes joueuses de l'équipe, notamment Marie-Ève Pelletier, Alexandra Wozniak qui était là. Et la coupe a été présentée avant le match à guichet fermé de la PWHL au Centre Bell samedi soir devant 21 000 personnes. C'était un moment important là, pour faire le lancement de cette tournée. Et le trophée, évidemment, de la Billie Jean King Cup fera le tour du pays dans toutes les provinces là, entre maintenant là, et la fin du mois d'août. Donc, c'est un beau moment. Puis rappelons-le, en 2022, Coupe Davis, champion du monde côté masculin. 2023, Coupe Billie Jean King Cup, Coupe Billie Jean King, championne du monde côté féminin. Le tennis canadien se porte bien. C'est des trophées très, très prestigieux. On est très, très content de pouvoir partager ça avec tout le monde.
Ah oui, je vérifiais les dates. Là. Ça va faire... ça va commencer dans l'ouest du pays. On va commencer par Vancouver, Calgary, Edmonton, Saskatoon, Winnipeg, Toronto, Halifax. Et on va aller faire un tour dans les maritimes par la suite. Les provinces atlantiques, je devrais dire. Halifax, Charlottetown, Fredericton, Moncton. Et puis, vous ne serez pas surpris d'apprendre que autour du mois d'août, du 9 au 31 août, ce sera Montréal et Québec. Ça concorde drôlement avec l'horaire de l'Omnium Banque Nationale. C'était un peu comme ça l'année passée hein, aussi avec la Coupe Davis. Elle a fait son tour dans le coin. Et Charlotte, peut-être avant qu'on parle du tour, toi, tu as eu la chance de représenter ton pays. C'est quoi jouer pour le Canada? Puis est-ce que c'est vraiment spécial de dire, tu sais, je joue sous la bannière canadienne?
C'est assez spécial, je te dirais, parce que le tennis, c'est un sport individuel où est-ce que tu te retrouves très seul sur le terrain, pas personne pour vraiment te parler, t'aider. Maintenant, ça a changé un petit peu là, sur le tour, mais tu joues pour toi. Oui, tu joues pour ton équipe, mais tu perds, tu gagnes. C'est sur toi, tandis que là, d'une certaine manière, tu joues pour ton pays. C'est plus comme une équipe, tous les joueurs sont sur le banc, regardent ton match, tout le monde va souper ensemble le soir. Il y a vraiment un esprit d'équipe, de collaboration très, très fort. Moi, ça s'appelle la Fed Cup, maintenant c'est la Billie Jean King Cup, même chose. Donc, c'est vraiment beaucoup plus de pression, mais en même temps, c'est encore plus gratifiant quand tu vas chercher les victoires puis quand tu sens que tu fais la différence. Moi, j'ai joué 5 matchs. En Fed Cup, j'ai été plusieurs fois sur l'équipe, donc j'ai eu un 4-1 quand même assez, c'est une belle des beaux souvenirs que j'ai de ces moments-là, tant si je me rappelle bien, c'était en Slovaquie, après ça j'ai été une fois à Québec, j'ai été une fois tu sais, il y a eu plusieurs rencontres auxquelles j'ai pu participer, puis ce qui est bien avec le Canada, c'est que dans le fond, leur but, c'est d'amener les jeunes joueurs et joueuses dans l'équipe rapidement. Donc, même si tu as 17, 18, 19 ans, puis tu joues bien, tu as des bons résultats chez les juniors, mais souvent, ils vont t'amener dans l'équipe juste pour que tu prennes de l'expérience, que tu vois c'est quoi, puis que pas nécessairement tu joues les matchs, mais peut-être dans les années qui suivent, tu joues les matchs. Donc, tu as déjà eu l'expérience d'être aux côtés des autres joueurs pendant qu'elles participaient puis jouaient. Donc, je pense que ça, c'est une très bonne chose aussi que le Canada a fait pour préparer les joueurs rapidement à jouer ces compétitions-là. Mais c'est vraiment un événement incroyable. Puis ça fait une grosse différence de jouer pour ton pays versus de jouer juste pour toi-même. Là, c'est beaucoup d'émotions. C'est sûr que c'est de la pression, mais en même temps, quand c'est positif puis on va chercher la victoire, c'est des feelings incroyables.
Ouais, comme tu dis, c'est vrai que le monde oublie à quel point le tennis, c'est un sport hyper individuel, à part d'être une grande star comme Roger Federer. Chez les juniors, c'est peut-être un petit peu différent. Là. On reste quand même dans un concept d'équipe, mais il reste que je suis sûr que tu t'es retrouvé tout seul dans une chambre d'hôtel à regarder l'heure et à trouver le temps long là, plus souvent que ben du monde. Je suis curieux, tu as voyagé beaucoup, là, tu parlais de la Slovaquie, tout ça, sans qu'on s'étende trop longtemps, mais C'était quoi ta destination tennis préférée? Mettons, le pays que tu as fait comme « Ah, oh, wow! » Ça, c'est vraiment trippant.
Ben, c'est sûr qu'en tant que joueuse, mes destinations préférées étaient surtout mes tournois préférés et non comme « Ah, oh, j'aime cette ville-là, j'aime cette température-là, j'aime cette culture-là. » C'est sûr qu'on est très concentré sur nos matchs, nos résultats, puis tout ce qu'on fait réellement, c'est hôtel, club de tennis, hôtel, club de tennis. Puis des fois, on va au resto le soir, mais c'est jamais rien d'extravagant, puis pas beaucoup de sorties sociales, là, donc... Ça a surtout rapport avec les tournois, donc je dirais l'Australian Open, mais tous les grands chelems en fait, Wimbledon, Roland-Garros, US Open. Je dirais probablement que mon préféré, c'était l'Australian Open, parce que j'ai une histoire un petit peu cocasse par rapport à ça. J'étais dans l'avion la journée de ma fête, j'étais supposée faire les qualifications. Finalement, quand je suis atterrie, j'ai su que j'étais la dernière à avoir rentré dans le tableau, puis finalement, je me suis rendue en quart de finale, puis c'est après ça, dans cette année-là, que j'ai eu mes meilleurs résultats, puis je suis arrivée quatrième au monde. Donc, ça a comme un peu déclenché toute ma séquence victorieuse cette année-là. C'était mon premier grand chelem, c'était autour de ma fête, donc il y avait plein de choses super incroyable par rapport à ce tournoi-là. Puis par la suite, c'est sûr que Wimbledon, c'est le plus prestigieux, c'est le plus classe. Il y a un aspect très noble de ce tournoi-là. C'est comme historique. Le gazon aussi, c'est la première fois que je jouais sur le gazon. Donc, je dirais à Australian Open, Wimbledon, j'ai vraiment, vraiment apprécié. Le Japon aussi, j'ai trouvé que la culture était incroyable, tellement propre, tellement respectueux. On mange bien, les gens sont super accueillants. Donc, je dirais peut-être ces trois endroits-là, j'ai particulièrement apprécié.
Est-ce que Repentigny était aussi une de tes destinations préférées comme Hugues?
Ben, tu ris, mais il y a bien des places que je serais probablement jamais allée si c'était pas du tennis, puis que finalement, j'ai super apprécié, j'ai rencontré des gens incroyables. Puis Repentigny, ben, c'est sûr que j'ai joué plusieurs fois le tournoi ici, puis c'est de jouer à la maison, toute ma famille, mes amis, pouvaient être là, pouvaient venir voir mes matchs, m'encourager, donc ça, c'est quelque chose que j'avais vraiment pas souvent. Puis qui était vraiment incroyable de pouvoir vivre ces moments-là. Puis j'ai quand même fait la finale contre Bianca une année. Donc, c'est vraiment des choses, malgré que c'était Repentigny et non Londres ou Melbourne, c'est vraiment un tournoi que j'ai beaucoup apprécié. Puis ils font un super bon travail là-bas là, pour faire un tournoi quand même assez prestigieux avant le US Open.
C'est quand même trippant de pouvoir avoir vécu ça à un si jeune âge, puis d'avoir comme autant d'expérience, d'avoir vu le monde ou presque. Mais t'as raison que, en tout cas, si t'es comme moi, là, tu sais, le monde, il pense que c'est beaucoup glamour, voyager un peu partout, mais c'est vrai qu'on voit surtout des enceintes sportives et des hôtels. On voyage pas, on fait pas beaucoup de tourisme, en tout cas, rarement on a le temps. Ah ben, c'est bien intéressant de faire un petit détour par tes souvenirs, ma chère Charlotte. Je sais pas, Hugues, est-ce que tu voulais ajouter sur la tournée de la Billie Jean King Cup ou est-ce que c'est simplement une occasion de...
Oui, juste pour dire que ça s'inscrit dans le programme Jeux 7 Équité pour valoriser, inspirer les jeunes filles et femmes à poursuivre leur carrière de tennis et à prendre des postes de gestion éventuellement après leur carrière dans le tennis. Donc, il y a tout un volet inspiration qui est relié à ça. Puis je pense que Tennis Canada vont faire de belles choses tout l'été avec ce trophée-là, qui, je répète, est un trophée ultra prestigieux. Avant, c'est effectivement la Fed Cup, comme le disait Charlotte. Donc, manquez pas votre chance si ça passe dans votre coin cet été.
Ben, écoute, moi, je pense qu'on va se faire un devoir d'aller voir cette coupe-là de près, comme on l'a fait avec Alexis, qui a remporté la Coupe Davis et qui nous a accueillis dans son événement à Laval. Tu sais, c'est pas banal. On l'a dit à plusieurs reprises, là, en Amérique du Nord, il n'y a peut-être pas cette reconnaissance ou notoriété-là de...
C'est l'historique aussi, je pense, effectivement. Tu sais, les grands pays du tennis, les États-Unis, la France, l'Australie, l'Espagne, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Puis on joue dans cette ligue-là maintenant, donc il faut vraiment en profiter, là, parce que c'est pas accessible à tous les pays, nécessairement.
Non, c'est hyper, hyper prestigieux, puis c'est vraiment historique, là, ce qui s'est passé, il faut le rappeler, là, et c'est drôle, hein, parce qu'on en parlait il n'y a pas si longtemps, ben, pendant que ça se déroulait, on se disait, Colin, ça n'a pas l'exposition médiatique que ça devrait avoir. Et puis, il faut rappeler à quel point, puis je trouve que c'est intéressant cette tournée-là où on va pouvoir célébrer notre victoire des femmes qui ont été ni plus ni moins que championnes du monde. Félix aussi, il a déjà été, lui, champion du monde à la Coupe Davis, tu disais, Hugues, il y a 2 ans. Il était en action cette semaine et je te dirais, c'est un copier-coller de semaine après semaine, j'ai l'impression, dans le cas de Félix Auger-Aliassim. Par où tu veux commencer dans son cas?
Il fait un peu du surplace en ce moment. Match de premier tour difficile et long, gagné en 3-7 contre un joueur moins bien classé que lui. Deuxième tour, Jan Lennard Struff, qui sur papier était un adversaire prenable, mais Struff connaît le meilleur tournoi de sa carrière la semaine dernière à Munich, remporte le tournoi, il bat Félix. Coup sur coup, Félix, Holger Rune, Taylor Fritz, dont un 6-0, 6-2 contre Rune. Il faut le faire quand même. Là. C'était Rune qui était le champion en titre, en plus, à Munich. Donc, Félix est tombé contre un joueur très en forme dans ce match de quart de finale. Mais bon, c'est encore une fois une semaine avec un résultat sûrement un peu décevant pour lui. C'était pas le plus gros tableau à Munich. Dans des conditions compliquées, il y a eu de la neige, de la grêle, il faisait froid. J'ai même vu Félix avec des gants en moumoute au changement de côté pour que ses mains restent souples et bien chaudes. Mais bon, c'est pas une très, très grande semaine. Il reste à la 34e place côté de l'ATP, 40e au niveau de la race. Le bon côté pour Félix, c'est qu'il n'y a pas trop de points à défendre dans les prochains mois jusqu'à l'automne. Fait qu'il y a une opportunité d'aller chercher des places au classement. On a hâte de voir comment il va sortir là, pour les deux gros grands chelems qui s'en viennent là, avec Roland-Garros et Wimbledon, évidemment. Et il sera à Madrid cette semaine, dont on parlera plus tard un peu.
Oui, justement, il n'y a qu'un deuxième tour à défendre à Madrid. Là. Alors, exact. Ça concorde avec ce que tu disais. Alors là, je ne vais pas ramener des mauvais souvenirs. Est-ce que c'est moins pire quand on perd contre l'éventuel champion du tournoi?
Mais c'est sûr que ça relativise, comme tu dis si bien toujours sur le podcast. On aime mieux perdre contre la personne qui gagne le tournoi qu'une personne qui perd tout de suite après, parce que ça veut dire que cette personne-là avait une bonne semaine, comme on a déjà parlé, qui était en confiance, qu'elle avait des bons repères, qu'elle se sentait bien et tout ça. C'est sûr que Félix peut pas dire ça trop fréquemment ces temps-ci. Là, c'est sûr que ça tombe sur le gagnant du tournoi. Donc, puis il y a quand même eu un bon match, 7-5, 6-4 contre lui. L'autre va jouer tout de suite après Rune, puis en 44 minutes, le match est terminé. Donc, c'est sûr que ça peut-être le rassurer d'une certaine manière, le réconforter, mais c'est pas gagné non plus pour Félix, qui a quand même pas eu de grosses victoires depuis le début de l'année. Là. Mais c'est sûr qu'on aime toujours mieux gagner contre celui qui a gagné le tournoi, mais on aimerait ça que ça soit des fois plus vers la finale que vers le troisième tour.
Mais bon, c'est semaine après semaine, c'est un peu ce qu'on dit sur Félix, c'est qu'il n'y a rien de catastrophique, mais rien non plus de spectaculaire. Comme tu dis, je pense que faire du surplace, c'est un peu ça. Je ne sais pas si c'est le bon terme, il faudrait lui demander à lui. Je le vois aussi quand je vois ses entrevues qu'il donne en ondes. Il n'est pas satisfait de comment ça se passe. Il a des attentes beaucoup plus élevées envers lui que ce qu'il démontre présentement. Et on sait à quel point il est toujours excellent et bon et charismatique en entrevue. Mais je sens par bout qu'il est peut-être un peu frustré de ses performances, frustré de la situation. Enfin, je ne sais pas. Et Hugues, j'ai une question pour toi. Et Charlotte, tu pourras peut-être ajouter là-dessus par la suite. Mais tu sais, tu parlais de la température qui était difficile, la graisse, la température froide. Est-ce que ça aurait pas dû, et là, peut-être que je donne beaucoup trop d'importance à ça, là, mais avantager un joueur comme Félix, qui en a connu d'autres, des situations comme ça, en temps au Canada où tu vis à peu près, tu joues dehors dans des températures qui n'ont souvent pas d'allure pareille. Là,
c'est la réflexion que je me suis faite quand j'ai vu le temps qu'il faisait là-bas. Beaucoup, beaucoup de délais de pluie, beaucoup de froid, encore une fois. Il y a même eu de la grêle et de la neige là, durant un réchauffement de Zverev. Mais donc oui, je pensais que ça aurait pu l'aider, mais c'est le tournoi maison de Struff aussi. Donc lui jouait à la maison, a sûrement eu des conditions similaires. Donc premier titre pour Struff à 33 ans. Il jouait dans son tournoi maison encore une fois. Donc je pense que c'est peut-être plus lui que ça a avantagé ultimement, bien qu'on le sait bien au Québec, on est habitué. Puis encore, c'est le cas en ce moment pour ceux qui ont joué ce week-end à l'extérieur. Il ventait, il faisait froid, 4, 5, 6 degrés. On est habitué à ça, mais bon, ça a plus avantagé le héros local que Félix à Munich.
Charlotte, est-ce que les joueurs canadiens, de façon générale, pourraient être avantagés par ce genre de conditions-là? Parce que vous vivez peut-être plus que des joueurs qui grandissent dans des pays plus chauds ou dans des conditions peut-être de façon générale un peu plus favorables que ce que vous pouvez avoir expérimenté en pratique ou en match?
C'est certain qu'au Canada, on a des températures très froides, évidemment. Puis ça arrive souvent que des fois, on va essayer de sortir à l'extérieur rapidement, même si c'est pas des températures hyper chaudes comme dans d'autres pays, aux États-Unis ou en Europe. Mais déjà en début d'année, on va dire OK, on y va quand même, on veut jouer dehors, on veut se pratiquer à jouer dehors parce qu'il y a quand même des éléments de jouer dehors qui sont plus difficiles que jouer à l'intérieur. Donc, on recommande toujours de s'habituer rapidement à aller dehors puis à jouer parce que les tournois sont souvent à l'extérieur. Mais en même temps, en France, par exemple, à chaque fois qu'on y allait puis on jouait à l'intérieur, les centres là-bas de tennis ne sont pas réchauffés. Donc, il fait très, très froid. Donc, je te dirais bien des places, beaucoup de places en Europe qui ont cette réalité-là, que les tennis intérieurs sont très froids, puis tu joues quand même, puis des fois même tu as une tuque, tu as des gants, puis c'est des températures quand même assez extrêmes. Donc, peut-être que les Européens ont aussi été habitués à ça d'une certaine manière. Nous, quand on joue à l'intérieur, ici au Canada, t'as pas froid, là. C'est comme réchauffé, puis on est bien, puis tu peux jouer en short puis en camisole. Donc, nous, on n'a pas cette réalité-là, mais par contre, quand on sort dehors, des fois, un petit peu comme peut-être au mois d'avril, il fait comme en ce moment, il fait zéro dehors, puis je vois qu'il y a du monde qui joue dehors là, avec une tuque. Fait que oui, on peut avoir peut-être une réalité. Des fois aussi, quand j'allais aux États-Unis, puis les filles qui s'entraînent en Floride, ils me disaient, je sais pas comment tu fais, toi, au Canada. Donc, il y en a qui n'ont vraiment pas la réalité du froid, qui vivent dans des pays chauds, puis que là, ils pourraient arriver dans des places comme ça, dans des tournois où il fait 4-5 degrés, puis être incapable de gérer ça. Donc, je pense qu'on a quand même un certain avantage, mais il y a quand même d'autres pays dans le monde qui ont cette réalité-là aussi. Donc, je pense pas qu'on est les seuls. Mais j'ai aussi eu ce commentaire-là quand j'ai vu qu'il faisait froid, puis que Félix jouait son match. Je me suis dit, bon, ben rien de surprenant. Il est habitué à Tennis Canada. Dans le temps, on sortait quand il faisait froid, même on allait courir dehors, puis il nous disait, mettez-vous un foulard, mettez-vous des pantalons. Donc, mais ça ne l'a pas avantagé clairement dans son match.
Ouais, comme je disais en même temps, je ne voulais pas non plus y donner une importance plus grande que c'est, mais je me disais, bon, il y a peut-être beaucoup de joueurs qui n'ont pas été exposés beaucoup à ce genre de conditions-là. Au Canada, ben, il y a des chances qu'on soit un peu plus exposés à ça.
J'ai un petit exemple, Alex. Quand, lors des qualifications pour la Coupe du monde, le Mexique de la CONCACAF est venu jouer contre le Canada à Edmonton, donc dans les phases qualificatives du soccer. Il faisait moins 20 degrés. Je peux dire que l'équipe canadienne était très contente de recevoir les Mexicains dans ces conditions-là, qui n'en revenaient pas. Il y avait des bancs de neige tout autour du pitch, du terrain. Et le Canada avait gagné ce match-là de qualification là, contre le Mexique. Et les conditions canadiennes avaient aidé l'équipe du Canada.
Ouais, déjà, en partant, le Mexique n'est peut-être pas le pays le plus dominant au niveau tennistique, en tout cas dans les dernières années.
Je parle du soccer, excuse-moi,
j'avais échappé cette donnée-là. Alors oui, dans ce cas-là, oui, ça explique peut-être bien des choses. Si vous voulez bien, on va faire une courte pause et au retour, ben, on va parler de ce qui s'est passé du côté de Barcelone et de Stuttgart, parce qu'il y a des résultats particulièrement intéressants de ce côté-là également.
La terrasse de l'Hôtel Montville au 20e étage avec vue sur tout Montréal est un espace entièrement privatisable. Pour organiser vos événements, contactez l'équipe des ventes du Montville par courriel à vente@commercialhotelmontville.com. Le restaurant Monem vous ouvre ses portes tous les matins du lundi au dimanche et tous les soirs du mardi au samedi. Vous pouvez réserver votre table à tout moment sur Open Table et découvrir leurs plats généreux inspirés de la gastronomie française.
Je rappelle que Struff a remporté le tournoi de Munich. C'était son premier titre en carrière, un niveau ATP 500. Il avait battu Félix Auger-Aliassime au passage. Il y avait d'autres tournois. C'est toujours un tournoi particulièrement intéressant. En fait, c'est une période intéressante, celle de la terre battue là, en Europe particulièrement. On va continuer du côté des hommes avant de sauter du côté de Stuttgart parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées de particulièrement intéressantes du côté de Stuttgart. Mais on a vu le traditionnel saut dans la piscine, mon cher Hugues. Et c'est une tradition que j'aime énormément avec les directeurs, les bénévoles qui sont tous dans la piscine. Et c'est Casper Ruud, un des meilleurs joueurs sur terre battue qui a eu la chance de remporter ce tournoi-là.
Je pense que c'est une des plus belles traditions rituelles de victoire du circuit, ce saut dans la piscine à Barcelone avec les ball boys et ball girls. Et oui, Casper Ruud qui finalement, Alex, après 10 titres, réussit à aller chercher un titre en haut du 250, son premier ATP 500 pour Casper Ruud à Barcelone. Super belle semaine pour lui. Il bat Tsitsipas qui l'avait battu la semaine précédente à Monte-Carlo. C'était la reprise de la finale de Monaco-Monte-Carlo. Ruud doit être vraiment content de son jeu en ce moment. Et moi, je te dis, on voit en Ruud et Tsitsipas deux prétendants pour Roland-Garros. Et j'ai même plus envie de dire outsider. Là. C'est des vrais prétendants. C'est eux qui dominent en ce moment. Puis généralement, ceux qui commencent fort à Monte-Carlo et Barcelone sont ceux qui arrivent très en forme à Roland-Garros. Donc, belle victoire de Ruud. Et il est sur une très belle lancée en ce moment.
Ouais, ben comme tu dis, là, c'est un titre pour lui. Après trois finales cette année, dont une à Monte-Carlo, alors qu'il avait perdu contre Tsitsipas, mais il avait battu Novak Djokovic au passage. Oui. Il avait battu Hubert Hurkacz au passage.
Exactement.
Je pense que présentement, Casper Ruud, il aura le couteau dans les dents, parce que ça fait longtemps, lui, qu'on l'attend à Roland-Garros. Et là, avec un Nadal et un Djokovic amoindri, disons-le comme ça, je pense que Casper Ruud, vous avez un petit peu d'argent à miser, c'est pas un mauvais choix.
Oui, Alex, oui. Un petit point, quand je l'ai interviewé Ruud à Montréal il y a 2 ans, il m'avait dit, parce qu'on sait qu'il a perdu en finale contre Nadal il y a 2 ans, il avait dit « Je veux rejouer Roland-Garros et j'espère que ça ne sera pas contre un certain Espagnol. Ça sera peut-être sa chance cette année en 2024. »
Peut-être se retrouver avec Carlos Alcaraz dans les pattes, par contre, qui sait. Hein? Mais ouais, Charlotte, commentaire sur Casper Ruud. Est-ce que tu le vois comme un des plus sérieux prétendants au trophée à Roland-Garros?
Oui, bon, on en parlait il y a quelques semaines. On se demandait s'il allait avoir une bonne séquence sur terre battue. Puis, tu sais, on se posait des questions par rapport à lui parce qu'il n'avait pas nécessairement des résultats flamboyants depuis le début de l'année. Là, on voit que, tu sais, on sait que sa surface préférée, c'est la terre battue. Ça se confirme encore. La saison de terre battue débute, puis il y a déjà des résultats incroyables. Une finale à Monte-Carlo, puis là, il gagne un tournoi à Barcelone. Donc, vraiment impressionnant de la part de Ruud. Il y a eu deux très bons tournois. Comme tu dis, ça prépare bien Roland-Garros. Là, il y a Madrid cette semaine. Donc, je pense qu'effectivement, on l'a vu là, déjà dans les dernières années, à quel point il peut être dominant sur terre battue puis à Roland-Garros. Donc, j'espère pour lui. Moi, j'aime bien son style de jeu. J'aime bien son attitude. J'aime bien son comportement. Très calme, très humble, très concentré sur ses objectifs, pas beaucoup de fla-fla, puis un jeu très complet aussi. Très impressionné par le niveau qu'il a eu dans les 2 dernières semaines. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire à Roland-Garros, mais ouais, moi, je pense que ce serait, si j'avais à miser sur quelqu'un, ce serait probablement Ruud pour Roland-Garros cette année.
Ben, c'est drôle, hein, parce que je pense que moi aussi, là, de la façon dont les choses se déroulent présentement, il y a vraiment une porte ouverte là, pour Tsitsipas et Casper Ruud. Et Casper Ruud, ben, ça fait tellement longtemps qu'on l'attend sur terre battue. Ça fait longtemps qu'on parle de lui comme étant un des dauphins de Rafael Nadal. Bon, faut pas sortir Tsitsipas de l'équation, ça, c'est sûr, mais Novak Djokovic, on en parle depuis le début de l'année, il n'a pas été aussi bon. Bon, maintenant, il ne faut pas non plus écarter trop rapidement un certain Yannick Sinner ou un certain Carlos Alcaraz là, qui pourrait venir mêler les cartes, mais je pense que de la façon dont Casper Ruud joue présentement, pour utiliser une expression anglophone, il pique au bon moment. Alors que, bon, beaucoup de grands joueurs là, sont peut-être amoindris, notamment Novak Djokovic et Rafael Nadal. Alors, c'est un 11e titre pour Casper Ruud. C'est comme je disais, il a déjà fait 3 finales cette année. C'est un premier titre cette année. Il a quand même quelques titres sur terre battue, celui-là, et c'est pas nécessairement surprenant. En 2021, il avait connu toute une saison en remportant 1, 2, 3, 4, 5, 6 titres. Alors, Casper Ruud, là, qui est de retour au sommet, alors que pendant un petit bout, ben, on disait ben, il est bien classé, mais c'est grâce à quelques résultats. Ouais. Il a été beaucoup plus constant cette année depuis le début.
Moi, je pense que ça va l'encourager beaucoup. Ça va le soulager un peu, cette victoire. Il y avait eu 7 finales en tournoi en haut de 250, sans victoire. Donc, 7 fois, il a été en finale, dont Roland-Garros. Donc, c'est la première fois qu'il réussit à aller chercher un titre au niveau 500. Moi, je pense que ça peut donner un petit boost de confiance là, pour la suite de la saison sur terre battue, assurément.
Il y a un blocage mental quand tu perds toujours en finale puis que tu n'es jamais capable d'aller chercher le dernier bout pour aller chercher le trophée. Donc, je pense que, comme tu dis, ça peut le rassurer. Puis, je l'entendais en entrevue avant son match cette semaine contre Tsitsipas. Puis, il disait que la semaine d'avant, quand il avait perdu, il s'était mis beaucoup de pression. Donc, je pense qu'il avait peut-être ça en tête, justement, d'un autre final. Faudrait que j'aille la chercher, celle-là. Je suis toujours faire en finale. Donc, il disait lui-même qu'il s'était mis une pression, puis ça l'avait joué un petit peu mentalement. Il pensait trop à ça pendant son match. Puis là, il avait mentionné qu'il voulait jouer plus un mindless tennis, qui était juste de jouer sans trop se poser de questions, sans trop douter, puis juste y aller à fond. Puis je pense que c'est ça qu'il a été capable de faire. Donc peut-être que trouver des façons de calmer cette petite anxiété-là de finale, puis de passer à travers. Donc des fois, de le faire une fois, ça se concrétise, puis ensuite c'est plus facile pour les prochaines fois. Donc peut-être que ce sera le cas pour Casper.
Mais qui sait, je veux dire, j'ai dit Novak Djokovic, il est amoindri, mais est-ce qu'on peut vraiment gager contre lui? Est-ce qu'on peut vraiment gager contre Rafael Nadal? Il a dit là, en entrevue cette semaine, je vais tout donner à Roland-Garros, et s'il y a un endroit pour lequel je vais, entre guillemets, m'écloper, là, il n'a pas dit mot pour mot, mais on comprend qu'il va tout donner dans ce tournoi-là, puis je serais surpris qu'il se retire de façon préventive, là. Il va l'essayer, son Roland-Garros, et probablement son dernier Roland-Garros.
Certain.
Et je serais pas surpris qu'il annonce sa retraite à Roland-Garros. Et là, on a appris, puisqu'on est sur le sujet, qu'il va participer à la Coupe Laver. Et ça, c'est particulièrement intéressant parce que la Coupe Laver, elle est à la fin de la saison, là. Elle est après l'US Open de façon générale. Alors, et c'est drôle parce que Roger Federer avait, lui, confirmé que c'était la dernière fois qu'on allait le voir dans un environnement compétitif à la Coupe Laver. Et vous vous souviendrez sûrement de cette image qui est maintenant déjà, même ça fait pas longtemps, légendaire de Rafael Nadal et de Roger Federer qui pleurent main dans la main. Donc, on va avoir une partie 2 de cette image-là où Rafael Nadal va dire adieu à ses partisans de façon compétitive. Et ce serait honnêtement quasiment un scénario rêvé parce que ça voudrait dire qu'on pourrait espérer un Rafael Nadal jusqu'à la fin de la saison quand même.
Alex, je ne suis pas certain qu'il va jouer nécessairement après Roland-Garros parce qu'on sait que Federer avait été un peu inactif avant sa fameuse retraite officielle à la Coupe Laver. N'oublions pas que Federer est actionnaire de la Coupe Laver. Moi, je ne serais pas surpris que Federer ait demandé à son ami Nadal d'être présent pour cet événement-là, justement pour qu'il fasse sa sortie un peu de la même façon sur un showcase grandiose international en fin de saison pour que Nadal soit là avec l'équipe Europe. Donc, je pense qu'il y a peut-être cette entente-là, mais je ne suis pas convaincu que le fait qu'il annonce la Coupe Laver en fin de saison veut dire qu'il va jouer tout l'été. Ça,
ouais.
Ça, j'en suis pas convaincu.
Ben, ça avait été le cas de Roger aussi, là.
Exact.
Mais en même temps, là, quand on est un romantique du tennis, hein,
comme nous.
Le scénario idéal, là,
ouais.
Ça serait Roland Garros avec le trophée dans les mains et ça se termine là. Faudrait que
mais
c'est
peut-être
ça.
Les Olympiques aussi.
Ben, on en a parlé, tu sais, on en a parlé dans les dernières semaines. Ça se pourrait, les Olympiques qui vont être à Paris et qui vont jouer à Roland-Garros également. Mais en même temps, je veux rien enlever au tournoi olympique, là, mais les Grands Chelems restent quand même plus prestigieux que le tournoi olympique. Je pense, en tout cas, dans l'essentiel de la tête des joueurs, quoique c'est particulièrement prestigieux. Et il a déjà le titre olympique, mais en même temps, c'est vrai que d'aller le remporter peut-être à Roland-Garros chez lui, peut-être, ça se pourrait. Il ne faut pas exclure cette possibilité-là. Ça, c'est certain dans le cas de Nadal. Mais est-ce qu'il y a une chance? Ben, Hugues, on en a déjà parlé, là, mais bon, toi et moi, on est convaincus que c'est sa dernière saison. Là, il en parle sur le bout des lèvres. Ce n'est pas tout à fait 100% confirmé, mais il a dit « Je tiens pour acquis que c'est ma dernière saison. » C'est presque ça, mais Charlotte, as-tu l'impression qu'il y a des chances qu'on le revoie à moyen terme?
Je pense qu'il voudrait continuer. C'est pas le désir qui manque, c'est pas la motivation, l'ambition de continuer sur le circuit. C'est plus son corps, sa santé qui l'empêche de faire ça en ce moment. Puis je pense que ça doit être quand même assez frustrant puis décevant pour lui de devoir avoir ses bâtons dans les roues là, parce que il a l'air encore très motivé puis il a l'air de vouloir continuer. Donc malheureusement, je pense que malgré ça, il va devoir arrêter cette année, parce qu'on voit que c'est à répétition là, les retraits, les blessures, les inconforts. Donc, je pense que si on est chanceux, comme tu dis, les amateurs et les romantiques de tennis, on va le voir à Roland-Garros, on va peut-être le voir même en finale, soulever le trophée, qui sait? J'en serais ravie pour lui de finir sa dernière, peut-être, année de cette manière-là. Puis après ça, peut-être aux Olympiques, mais je pense pas que ça va continuer encore très longtemps parce qu'on voit qu'il souffre puis qu'il doit se retirer souvent, là. Donc, je pense que ça va être la fin bientôt pour notre cher ami Raphaël Nadal.
S'il fallait qu'il se fasse sortir assez tôt là, par, je sais pas, je dis n'importe quoi, là, un Félix Auger-Aliassim qui met fin à la carrière de Nadal à Roland-Garros. Je sais pas, Charlotte, est-ce que même comme joueuse, tu aurais des sentiments mélangés, si on veut, là, de dire, OK, là, je le gagne le match, mais en même temps, je viens de terminer la carrière d'une légende comme ça. Là.
C'est certain que c'est jamais facile de jouer une idole, quelqu'un d'aussi grandiose et un icône, un icon, comme ils disent en anglais, du tennis. Donc, je pense que peu importe qui joue Nadal à Roland-Garros, sachant que c'est peut-être son dernier, avec tout ce qu'il a accompli là-bas, tous les records, je pense que ça va être un peu amer. Donc, il n'y aura pas, tu sais, ils vont être contents, bien évidemment, de battre Nadal, d'avoir une victoire puis de continuer dans le tournoi. Mais il va y avoir un petit pincement au cœur, je pense, pour tout le monde parce qu'il représente tellement quelque chose de gros puis que, tellement quelque chose d'inspirant pour tant les jeunes que les plus vieux du circuit. Je pense qu'il est hyper respecté. Puis personne, je pense, ne serait pas content de le voir en finale. Donc, je pense que ça va comme être un petit moment un peu triste pour tout le monde là, s'il est éliminé, peu importe qui. Puis en même temps, pas que tu te sens mal, mais tu le sais que tu es la personne qui l'élimine. Donc, comme un peu Tom Lanovich contre Serena.
Serena au US Open, c'est une bonne comparaison.
C'est comme, tu sais que la foule en plus veut que l'autre gagne. Donc, il y a toujours cet inconfort-là, cette tension-là, je pense. Là.
Surtout dans ton tournoi fétiche. Hein. Je pense à Agassi au US Open aussi, quand un certain Benjamin Becker, et pas Boris Becker, hein, mais Benjamin Becker, qui n'a pas eu une très grande carrière, a sorti André Agassi de son dernier tournoi au US Open. Tu voyais qu'il était presque mal à l'aise à la fin. Il applaudissait, évidemment, comme tout le monde. Puis il y a beaucoup de respect pour Agassi, qui avait fait un discours hyper touchant à ce moment-là. Mais c'est une drôle de position, effectivement, quand tu te retrouves là à éliminer une légende du sport.
En tout cas, on ne se tendra pas de parler de Raphaël Nadal d'ici la fin de la saison. On va en parler autant qu'on en voudra parce que c'est peut-être les derniers moments auxquels on assiste d'une légende vivante, non seulement du monde du tennis, mais du sport en général. Il va passer à l'histoire comme un des plus grands athlètes de tous les temps et ça, c'est à ne pas en douter. Et non seulement un des plus grands athlètes, mais un des plus grands modèles également, de autant d'attitude et de performance là, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Raphaël Nadal, c'est pendant un bout, si vous étiez un fan de Federer, peut-être que vous aviez de la difficulté à avoir gagné Nadal, mais on ne peut qu'apprécier à quel point cet homme-là est plus grand que nature et est une légende du monde du sport de façon générale. Bon, on a fait ce qui s'est passé du côté des hommes. On en a profité pour faire un détour du côté de Raphaël Nadal puisqu'on était sur le sujet. Mais il y avait un autre tournoi du côté de Stuttgart. C'est un tournoi qui est reconnu parce qu'on donne une Porsche à la fin de la saison. Iga Świątek tentait de le remporter pour une troisième fois de suite, mais c'est finalement Elena Rybakina, mon cher Hugues, qui a mis la main sur le titre.
Ouais, le fameux Grand Prix Porsche et la marque Porsche fait beaucoup parler d'elle, évidemment, cette semaine-là. Évidemment, c'est la ville Stuttgart où est la manufacture de Porsche. Donc, tout est autour de Porsche dans cette semaine-là. Et évidemment, en plus du prix en argent, il y a une toute nouvelle Porsche qui est remise à la gagnante. Świątek l'avait gagnée. En fait, ça fait deux fois qu'elle remporte ce tournoi-là. Elle a été éliminée en demi-finale cette année par Rybakina, qui a eu tout un tournoi, victoire en 3-7 de Rybakina contre Świątek en demi. Et Rybakina qui va gagner contre Kostiuk en finale, de belle façon. Un beau match aussi accroché quand même. Mais encore une fois, c'est une bonne saison pour Rybakina qui prend forme en ce moment sur terre battue. On sait qu'elle a gagné Wimbledon déjà, donc c'est intéressant qu'elle performe à ce niveau-là sur terre battue aussi. On voit sa polyvalence. Là. Donc, belle victoire pour Rybakina qui repart avec la Porsche, mais qui n'a toujours pas son permis de conduire, donc ça va être une vraie motivation pour passer son permis de conduire, j'imagine, cette nouvelle voiture sport dans son garage.
C'est un peu un peu décevant de voir une Porsche donner à une personne qui n'a pas permis de conduire, je vais dire comme ça. Et peut-être mentionner la performance de Marta Kotsuk qui, mine de rien, bien, a battu Zheng dans ce tournoi-là, Coco Gauff et Vondrousova avant de se terminer contre Rybakina. Alors, tu sais, Marta Kotsuk, c'est pas une fille qu'on attend nécessairement pour battre de grandes têtes de série de façon générale, mais elle connaît une saison intéressante et c'est un troisième titre pour Rybakina cette année quand même déjà. Alors, c'est comme tu le disais, c'est pas une mauvaise saison. Elle avait perdu en finale à Miami également contre Danielle Collins. Alors, c'est déjà quand même d'excellents moments là, pour la Kazakh. Peut-être commentaire rapide de Charlotte sur Rybakina, mais qui continue de s'imposer comme une des meilleures joueuses.
Oui, elle avait dû se retirer quelques semaines parce qu'elle avait été malade, mais à part de ça, elle a un début d'année incroyable. Elle a vraiment des bons résultats, puis on voit même sur dur que sur terre battue. Comme tu disais, Hugues, c'est quand même assez impressionnant de voir sa polyvalence, de voir comment elle peut jouer sur les deux surfaces, parce que c'est une joueuse qui est grande, qui est puissante, qui joue à plat, qui dicte beaucoup les échanges. Puis ça, habituellement, ça paye sur le gazon, sur le dur, peut-être un peu moins sur la terre battue. Donc, elle est capable d'éliminer comme ça Swiatek, puis de gagner en finale comme juste au-dessus d'une heure contre Kostyuk, qui a quand même des derniers mois quand même très impressionnant aussi, qui est jeune aussi. Puis comme tu le mentionnais, on la voyait moins venir, mais on voit que là, elle se démarque particulièrement. Donc, très contente pour Rybakina, qui, encore une fois, est une joueuse que j'apprécie beaucoup de par sa prestance, son calme, son charisme. Tu sais, elle gagne des tournois, puis elle est très silencieuse, mais...
Un peu ça.
Elle est discrète, oui.
Oui, oui, c'est pas la plus extravagante, ça, c'est sûr. Là. C'est peut-être son côté un peu... soviétique d'une certaine manière. Là.
Je pense qu'elle a les deux pieds sur terre aussi. Elle prend les choses comme elles viennent, elle est reconnaissante, mais elle ne se prend pas pour une autre. Je pense que c'est une belle attitude en tant que championne. Puis c'est ça qui te fait aller plus loin aussi parce que tu restes humble. Donc, très contente pour elle. C'était drôle un peu son entrevue quand ils lui ont dit avant son match de finale, tu vas peut-être t'en aller, tu es à un match près de sortir d'ici dans ta Porsche, comment tu te sens ou quelque chose comme ça. Puis elle est juste partie à rire. Puis elle a dit, écoutez, tout le monde, j'ai même pas encore mon permis, donc c'est pas moi qui vais la conduire pour le moment, mais ça va être une belle motivation supplémentaire pour aller justement chercher mon permis de conduire, chose qu'elle veut faire, là, qu'elle veut compléter. Donc, c'était cocasse. Puis d'un autre côté, Swiatek, qui, elle, ça a l'air plusieurs voitures. Donc c'est un bon tournoi. C'est une belle motivation de plus pour les filles. Là, je trouve ça bien. Puis bien contente pour Rybakina.
Troisième titre cette année pour la Kazakh et un huitième au total, dont un titre grand chelem, tu le mentionnais si bien, Hugues, à Wimbledon. Alors qu'on ne l'attendait plus, mais qu'on ne l'attendait pas à ce moment-là, mais maintenant, on l'attend plus que jamais, la chère Rybakina. On va faire une courte pause et au retour, on va accueillir Nicolas Richard, on va venir faire le dernier bloc de l'émission avec nous pour parler de Garbiñe Muguruza qui a annoncé sa retraite. On va parler un peu de sa carrière. On va aller faire un tour du côté de Madrid et des nouvelles d'Alexis Gallardo.
La terrasse de l'Hôtel Montville au 20e étage avec vue sur tout Montréal est un espace entièrement privatisable. Pour organiser vos événements, contactez l'équipe des ventes du Montville par courriel à vente@commercialhotelmontville.com. Le restaurant Monem vous ouvre ses portes tous les matins du lundi au dimanche et tous les soirs du mardi au samedi. Vous pouvez réserver votre table à tout moment sur Open Table et découvrir leurs plats généreux inspirés de la gastronomie française.
De retour à Sur la ligne, le radio podcast officiel de l'Omnium Banque Nationale. Je vous rappelle qu'on est disponible sur toutes les bonnes plateformes de balado, et notamment sur les plateformes numériques de Cogeco. On a également une version télévisuelle à TVA Sport où vous pouvez nous entendre parler de tennis également et nous voir parler de tennis à la télévision. On accueille Nicolas Richard pour le dernier bloc de l'émission. Nico, comment vas-tu? Comment te portes-tu?
Ça va bien, messieurs. Merci.
Donc, t'es sur un événement... Hey, tu prends le temps de venir nous jaser un peu. C'est intéressant parce que tu arrives au bon moment parce que je voulais qu'on puisse parler de la retraite de Garbiñe Muguruza, qui est une athlète que tu aimes beaucoup et que moi, j'ai toujours apprécié énormément, non seulement pour ses performances sur le terrain, mais pour son charisme absolument exceptionnel. Tu disais même le retrait d'une grande dans notre conversation de groupe.
Bien, souvenez-vous, fut un temps, Muguruza était un peu la référence tennistique. Oui, évidemment, il y avait Serena Williams, mais Muguruza, pour les gens de ma génération, Charlotte aussi, c'est le cas, elle était vraiment extrêmement intéressante et impressionnante à regarder jouer. Deux grands chelems, un Masters en 2021, et c'est sur quoi je vais mettre l'accent. Souvenez-vous, lors de la pandémie, on assistait à un retour de Muguruza dans l'élite mondiale. On se disait, est-ce que c'est le retour d'une championne, le retour d'une grande? Ultimement, ça aurait été de courte durée, mais quand même, ça a été tout un parcours.
Bien, elle a gagné les finales de la WTA en 2021 et depuis, elle a, bon, pas joué tant que ça. Là. Ben, franchement, elle a presque pas joué en 2022 et puis en 2023, elle a joué que quelques tournois. Alors, bon, c'est et là, on se demandait, bon, qu'est-ce qu'elle devient, Garbiñe Muguruza? Elle a annoncé sa retraite cette semaine et comme tu le dis, une dizaine de titres, deux titres Grand Chelem et des titres particulièrement importants là, comme ceux de Cincinnati, Beijing et les Dubaï également. Elle a remporté à Monterey. Mais comme tu le dis aussi, c'est une des filles qui rivalisait avec les sœurs Williams. Elle a battu d'ailleurs à Wimbledon Venus Williams en finale. Elle a battu Serena Williams en finale à Roland-Garros. C'est pas banal de dire que tu as battu une des sœurs Williams à l'époque où, je pense en tout cas, Serena, dans les années 2015, on pouvait encore considérer là, qu'elle était dans son prime, comme on dit. Alors, c'est une raison de dire que c'était une joueuse qui pouvait rivaliser avec les meilleures joueuses au monde.
Pour moi, Alex, c'est un peu dans la même veine que Anna Ivanovic ou Simona Halep, par exemple, qui ont été des grandes joueuses de leur génération sans devenir des légendes vivantes, mais qui, pendant une période de temps de 3, 4, 5 ans, étaient des références, étaient les feuilles à battre. Les blessures ont évidemment miné la carrière de Muguruza, mais lorsque je m'attardais à ses stats tantôt, lorsque j'ai appris sa retraite, je me suis souvenu d'à quel point, pendant une période de 3 ans, elle était la joueuse à battre sur le circuit de la WTA, puis elle amenait quelque chose de différent, grande, elle était ample, elle était bonne d'à peu près toutes les phases du jeu. Donc, de me rappeler de cette joueuse-là, qui, je l'ai dit, c'est une grande, qui se retire trop tôt, mais quand même, je pense qu'on doit saluer cette carrière qui demeure exceptionnelle.
Ouais, c'est quoi tes souvenirs, toi, Charlotte, de Garbiñe Muguruza, et que tu as vu jouer et que tu as vu devenir numéro un mondial alors que ben, tu jouais encore?
Ouais, ben moi aussi, je l'associe beaucoup aux sœurs Williams, là, surtout Serena Williams. Je me rappelle de la trouver très grande, elle mesure 6 pieds quand même, là, mais quand j'étais jeune, je me rappelle de ça. Puis c'est sûr que c'est une fille qui m'a inspirée là, depuis que je suis jeune. L'année qu'elle a gagné Wimbledon, je m'en rappelle très bien. Je pense que moi aussi, j'étais à Wimbledon cette année-là. Donc, c'est comme d'une certaine manière, on suivait, on se côtoyait. Elle, j'ai les pros, moi, dans les juniors. Donc, c'était comme une joueuse à suivre. Je voulais me rendre là. Donc, vraiment une grande carrière. Puis, deux grands chelems, première au monde, gagne les finales de la WTA. Donc, elle peut être vraiment fière de ce qu'elle a accompli. Puis, elle a 30 ans. Donc, oui, c'est quand même jeune. Mais en même temps, peut-être qu'elle a d'autres ambitions, puis elle peut être très, très fière de sa carrière.
Oui, une fille qui ajoute, en tout cas, certainement à la grande histoire de l'Espagne, qui est déjà magnifiquement garnie, mais c'est une fille qui aura contribué à ajouter à ce pays-là, qui est déjà un des plus grands, sinon peut-être le plus grand pays dans le monde du tennis. En tout cas, ça se défend très bien. Hugues, tes souvenirs de Garbiñe Muguruza, c'est quoi?
Ben, surtout ces deux grands chelems en 2016-2017, donc Roland-Garros 2016, Wimbledon 2017. Pas beaucoup de joueurs et joueuses peuvent se targuer d'avoir eu ces deux tournois hyper prestigieux là, de la saison d'été. Et moi aussi, c'est une joueuse que j'appréciais beaucoup, très, très versatile, une vraie compétitrice de haut niveau là, qui pouvait battre n'importe qui sur une bonne journée. J'ai eu beaucoup de plaisir à la regarder jouer. Puis moi aussi, j'aurais espéré l'avoir plus longtemps. Elle prend sa retraite à 30 ans seulement quand même. Hein. Est-ce qu'elle a pu accomplir si jeune, c'est vraiment admirable. Donc, on lui souhaite une bonne retraite, une autre période de sa vie qui commence, mais elle a apporté beaucoup au tennis.
C'était une fille absolument charmante, avec un charisme complètement fou en entrevue. Elle était vraiment une bonne porte-parole pour le monde du tennis. Une fille qui a remporté deux titres à Monterrey au Mexique. Et pourquoi je vous parle du Mexique? Ben, c'est parce que Alexis Gallardo est allé faire un tour du côté de Acapulco et ça nous fait une transition parfaite. Il a fait une demi-finale et c'est un autre bon résultat pour Alexis Hugues.
Oui, ben écoute, sa saison de printemps, là, depuis sa blessure qu'il a dû régler après la Coupe Davis, ça se passe très bien. Donc finale, quart de finale, et il est en forme, Alexis. Moi, je pense qu'il nous réserve encore une fois une très bonne saison et son classement va continuer de progresser si il continue d'enchaîner des performances comme ça au niveau Challenger, le quart, demi-finale. Ben il pourra aspirer là bientôt aux qualifications des Grands Chelems comme son compatriote et ex-tennis Montréal, Gabriel Diallo. Donc, très content de voir Alexis là, performer comme ça en ce moment, sur différentes surfaces aussi. Donc, ça fait vraiment plaisir.
Il se rapproche tranquillement de son... En fait, il est déjà à son meilleur rang en carrière. Il est présentement, là, selon les classements en direct, 156e mondial. Et son meilleur rang était 161e mondial. Alors, ça progresse dans le cas d'Alexis. Oui. Il va se rapprocher dangereusement s'il enchaîne encore quelques victoires par tournoi ici et là, ben, d'une place non seulement en qualification, mais peut-être éventuellement de tableau principal de tournoi. Exactement. Du Grand Chelem. Parce qu'il n'est pas si loin que ça au moment où on se parle, et il n'a pas tant de points à défendre. Alors, à part les deux premiers tournois, ben, il n'a pas fait autre chose qu'un quart de finale ou mieux depuis le début de sa saison. Alors, Alexis vraiment est sur une bonne séquence et c'est intéressant de voir ça, alors que d'autant plus, on sait, là, il a été pris avec des blessures au début de la saison. Alors, vraiment intéressant pour notre favori, mon cher Nico.
Tout à fait. Ce que je trouve intéressant dans le cas d'Alexis, c'est que sur les réseaux sociaux notamment, ou même sur les différents feeds de l'ITF, on remarque qu'Alexis commence à être reconnu ailleurs qu'au Québec, ailleurs qu'au Canada. On le voit au Mexique à quel point, bon, on le sait, Alexis, c'est un gars qui est agressif sur le terrain, c'est un gars qui est un des favoris des partisans lorsqu'il se retrouve sur un court de tennis. Je trouve ça chouette de voir qu'Alexis commence à avoir une notoriété qui peut-être sort des cadres purement québécois et canadiens.
Un des joueurs qui change le plus de chandails sur le circuit professionnel dans un match, ça, on le sait. C'est minimum 3 chandails, peu importe la durée des sets. Peut-être un commentaire rapidement, Charlotte, avant qu'on ait du côté de Madrid.
Ouais, ben on l'a eu en entrevue avec nous. On a eu la chance de discuter avec lui il y a quelques semaines. Puis Alexis, c'est toujours un chic garçon, très gentil. On se connaît, comme j'avais dit, depuis super longtemps. Donc, ça me fait vraiment plaisir de voir ses résultats. Très fier de lui. Il monte vraiment rapidement là après sa sortie du collège américain. Donc, des fois, c'est pas facile les premières années, les premiers tournois, mais on voit qu'il prend sa place. Puis il est très à l'aise sur le circuit. Il va peut-être commencer, comme tu dis, à faire les tableaux principaux des Grands Chelems. Là, il y a un entraîneur, chose qu'il n'avait pas avant. Donc, je pense qu'il y a tous les éléments autour de lui pour continuer d'avancer puis d'avoir des bons résultats. Peut-être cet été à la Coupe Banque Omnium Banque Nationale, peut-être un bon résultat. On dirait que je le sens dans une bonne séquence, en tout cas en ce moment. Donc, espérons que ça continue pour lui.
Non, exact. Excellent résultat du côté de Alexis Galarno, une fois de plus. Passons du côté de Madrid. On sait que Rafael Nadal, il sera du côté de Madrid également et le tableau, il est sorti. On sait ce que les Canadiens vont faire, la première tête de série. Et Yannick Sinner et il y a Carlos Alcaraz dans le bas du tableau. Alors, ce sont les deux premières têtes de série. Novak Djokovic, lui, n'y sera pas du côté de ce tournoi-là. Mais Nadal, on va pouvoir le voir. Peut-être un commentaire avant qu'on aille sur les Canadiens de Nadal, mon cher Hugues.
Ben, c'est un Masters 1000 à Madrid, on le sait. Je vois Nadal là, qui potentiellement encore sur sa route Alex de Minaur au deuxième tour, comme la semaine dernière à Barcelone. On sait que ça a été difficile un peu au deuxième set, notamment là, contre de Minaur. C'est pas évident pour Nadal de pouvoir enchaîner les victoires, mais il l'a dit, je me prépare tranquillement, je dose mon effort pour tout donner à Paris. C'est là que ça va se passer pour lui. Exactement. Donc, il va mesurer ses efforts. Donc, on verra ce qu'il fera à Madrid cette semaine. Mais effectivement, on se retrouve avec Sinner et Alcaraz, premier et deuxième favori suite au retrait de Djokovic. Encore une fois, il n'avait pas joué l'an passé aussi, Madrid et Djokovic. Alcaraz qui est prudent avec une blessure aussi. Donc, j'ai hâte de voir si Sinner pourra tirer avantage de cette opportunité-là, je dirais. Mais on va retrouver Félix, évidemment, et Chapovalov dans le tableau, là, ce qui fait très plaisir là, pour ce gros tournoi en Espagne.
Il va affronter Darwin Blanche au premier tour, au Blanc, je ne sais pas trop comment le prononcer, c'est un jeune homme de 16 ans, vous allez voir la photo, il ressemble étrangement à Ben Shelton.
Oui, c'est vrai, je me suis dit la même chose quand je l'ai vu ce matin.
Ah, oui, mais Même ouais. sur le coup, avant de lire le nom, j'ai dit, peut-être que ça porte Ben Shelton, mais il ressemble étrangement à Ben Shelton.
Alors, et Alex, Alex, je porte à ton attention une photo qui est devenue virale sur Twitter tantôt. Cet adolescent qui a écrit sur Snapchat à ses amis privés, je joue contre Nadal, WTF, face surprise, et la photo est devenue virale, comme quoi c'est dorénavant comme ça que le tennis se joue.
Nico, honnêtement, c'est pas facile de faire ce que tu viens de faire, c'est-à-dire d'écrire une description texte, mais oui. tu le fais de façon merveilleuse. Tu pourrais en faire peut-être une carrière d'écrire des emojis de cette façon-là.
Mais j'ai pas ta voix mielleuse, Alex, pour faire de la narration, alors je te laisse ça.
Honnêtement, merci du compliment.
Tant que Alex, un petit point, j'ai plus beaucoup de temps, mais je veux quand même parler du tableau de Félix. Là, après, après un bail, il va peut-être, après, il va sûrement avoir sur sa route Manarino au deuxième tour et potentiellement au troisième tour Dimitrov. Donc, c'est un tableau costaud aussi pour Félix, là, pour essayer d'aller chercher des points, comme on le disait plus tôt, parce qu'il peut en faire cette semaine à Madrid.
Ouais, il affronte Nishioka au premier tour.
Nishioka au premier tour, oui.
Exactement. Le problème dans le cas de Nishioka, c'est qu'il a une fiche perdante de 2-3 contre Nishioka. Et tu parlais
c'est pas un joueur facile. C'est pas un joueur
facile. Non, puis c'est un joueur qui visiblement est à l'aise contre Félix. Ouais. Félix qui n'a jamais passé plus loin que les quarts de finale dans ce tournoi-là. En 2023, il avait fait un deuxième tour. Et tu disais Manarino au deuxième tour, ben, il a une fiche perdante contre Manarino aussi, 0-1. Et s'il fallait qu'il passe le deuxième Dimitrov. Tour, il affronterait Grigor Dimitrov et c'est peut-être ouais. pas la meilleure, mais évidemment, dans un scénario où tout se passe comme prévu. Bon, Chapovalov est aussi dans ce tournoi-là, mon cher Hugues. À quoi tu t'attends de Chapovalov qui a montré des choses intéressantes, mais encore une fois, rien d'incroyable, mais va affronter Diaz Costa au premier tour.
Oui, Diaz Acosta au premier tour, qui est un 47e mondial. Moi, je vous l'ai dit, j'aime beaucoup la persévérance de Chapeau qui joue beaucoup de tournois en ce moment. Quelques belles victoires ici et là. Donc, pourquoi pas quelques tours là, à Madrid. Je ne l'ai pas vu à l'entraînement. Je n'ai pas trop de références sur Denis en ce moment, mais j'ai hâte de voir son match. Je suis content de le voir jouer régulièrement, en tout cas, en ce moment.
Nico, tu as des attentes particulières pour Chapovalov qui affrontera Acosta au premier tour, peut-être Echeverry au deuxième.
Ça reste que Chapeau, puis je sais qu'on le répète, il a battu Tsitsipas. Il y a un Tsitsipas qui est vraiment dans de bonnes conditions. Donc, pour moi, cette victoire-là qui est arrivée il y a quelques semaines, elle est significative. S'il peut construire là-dessus, on lui souhaite que du positif, puis on pense que ça peut arriver pour Chapovalov.
Charlotte, peut-être rapidement sur Chapeau.
Ouais, je sais pas quoi en penser de Chapeau. Je pense qu'il est dans une pente montante, donc il se rend tranquillement où est-ce qu'il doit être. Ouais. C'est sûr que moi aussi, sa victoire... il y a une couple de semaines, me surprend et me rassure d'une certaine manière. Mais en même temps, le tennis, on le sait, c'est à chaque semaine. Puis à chaque semaine, on veut avoir des bons résultats, puis on veut performer, puis on veut montrer notre niveau parce que c'est très, très, très compétitif. D'une certaine manière, il va falloir qu'il démontre plus constamment, je pense, que son niveau en ce moment est là, puis il va devoir continuer de travailler fort parce que, comme un peu comme Félix, c'est rien de dramatique, mais en même temps, c'est rien d'exceptionnel. Puis on a le potentiel d'être des joueurs qui sont plus dans le top 20 que où est-ce qu'ils sont présentement, selon moi, et selon leur potentiel. Donc, à voir. Il y a aussi Leila qui joue cette semaine à Madrid. Donc, à garder un œil sur ça aussi pour la Canadienne.
Oui, ben elle a un bail au premier tour. Là. Elle s'est passée pour le premier tour, Leila Fernandez. Et elle va affronter possiblement Patapova. Je sais quand même qu'elle est un laissez-passer, à moins que le tableau que j'ai sous les yeux ne soit pas à jour là, ou que c'est une qualification, mais avec le classement qu'elle a, je suis un peu surpris. Mais elle affronterait probablement Patapova au deuxième tour et peut-être Ons Jabeur au troisième tour. Alors, ce serait quand même pas facile. Nico, à quoi t'attends de Leila?
On s'attend que du positif. Hein. Depuis quelques semaines, c'est dit. Ben, pour Leila, c'est un peu. En dentiste, c'est un peu en montagne russe, on le sait depuis quelques mois maintenant. Puis c'est là, sur la terre battue, c'est possiblement là où elle pourrait faire le plus mal à ses adversaires. Donc, on lui souhaite évidemment de bons résultats.
Oui, exact. Commentaire rapide sur Leila?
Oui, ben je pense que c'est ça. Elle peut avoir une bonne séquence sur terre battue. Puis elle peut bien préparer Roland-Garros, là, qui est souvent l'ambition de bien faire là-bas aussi. Donc, je lui souhaite du positif. C'est sûr que Ons Jabeur sur sa route, mais Ons qui n'a pas vraiment des super résultats non plus dans les derniers mois. Donc, ça peut être ouvert pour elle cette semaine et peut-être lui donner confiance pour la suite puis pour Roland-Garros qui s'en vient.
Regardez à l'œil le tournoi de Madrid. Hugues Léger, tu es salué. Charlotte, merci infiniment. Et Nico, ben, tu t'es joint à nous pour le dernier bloc. Eh bien, c'est juste à temps pour te donner ta mission traditionnelle qui est de terminer l'épisode comme tu le fais si bien semaine après semaine.
Bon tennis, Alex. Bon tennis, Charlotte. Bon tennis, tout le monde.